Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au journal des médias, qu'avez-vous au sommaire ce matin Cyril?
Au programme, un changement de statut pour Libération qui pose beaucoup de questions. Jean-Luc Reichmann qui fait lui aussi des jolis coups, et pas seulement le midi, et la fin d'une saga qui aura animé ce journal des médias depuis plusieurs mois.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision?
Les Français n'ont pas résisté à l'appel du dîner de cons. Plus de 7 300 000 téléspectateurs étaient devant TF1 hier soir. C'est plus de 28% de part de marché. Plus de 20 ans après sa sortie, la comédie avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte continue d'être ultra populaire donc auprès du public. Cela n'empêche pas M6 de continuer son bonhomme de chemin. Sa série Why Women Kill fait même un peu mieux que la semaine dernière. Il y avait 3,5 millions de Français devant l'épisode inédit d'hier soir. Et troisième position, France 3 et son film La Faille avec Anthony Hopkins qui ne cherche pas à manger Ryan Gosling. Il y avait plus de 2 600 000 téléspectateurs devant France 3.
Culture Média. Cyril, je l'ai annoncé dans le sommaire, on débute maintenant ce journal des médias par ce qui se passe du côté de Libération. C'est presque une première dans la presse écrite en France, à quelques nuances près. Le quotidien quitte le giron du groupe Altice pour se muer en société à but non lucratif.
Adieu, affreux capitaliste, place au fonds de dotation pour une presse indépendante. C'est le nom de la nouvelle structure que va intégrer Libération. Une annonce faite hier aux salariés du quotidien. Concrètement, cela veut dire que désormais, Libé devra faire appel à des mécènes pour financer son développement. Un modèle que Mediapart a déjà mis en place, sur lequel planche Le Monde, et qui existe déjà dans la presse, presse française. Comme le rappelle Antoine de Tarlet, l'ancien directeur général de Ouest France, ce matin sur Twitter, Ouest France appartient depuis 30 ans à une association à but non lucratif. Pour savoir ce qui se passe du côté de Libé, nous avons demandé à Laurent Geoffrin, le directeur de la publication du journal, pourquoi ce changement avait du sens aujourd'hui.
C'est une question qu'il faut poser à Patrick Drahi. Je pense qu'il a dû estimer qu'après avoir présidé un redressement, plutôt que de vendre le journal ou de le garder dans le groupe, ce serait bien pour le principe, quoi, et pour son image, j'imagine aussi, de faire en sorte que le journal acquiert une pérennité et une indépendance qui soit consacrée par ce changement juridique. C'est-à-dire qu'on est sur une voie de redressement, pas facile, hein. Ce redressement sera financé par la Fondation. Et donc le groupe Altice, qui est le groupe de Patrick Drahi, s'est engagé à apporter suffisamment d'argent, d'abord à effacer toutes les dettes du journal au moment de la translation, et ensuite à apporter suffisamment de fonds pour garantir et la vie courante et le développement du journal.
Dans un mail envoyé hier aux équipes du journal, Altice rappelle que Patrick Drahi a sauvé Libé du dépôt de bilan en mars 2014. Et comme l'a dit Laurent Geoffrin à l'instant, il lui a permis de se redresser. Mais alors du coup, on peut se poser la question, pourquoi ce désengagement? Faut-il y voir un désintérêt de l'homme d'affaires pour le journal? La réponse de Laurent Geoffrin.
Je ne crois pas, parce que cette fondation sera dirigée par un directoire, un conseil d'administration, pardon, qui sera composé de Laurent Geoffrin, c'est-à-dire de moi, de Arthur Dreyfus, qui est le directeur général d'Altice Média, donc qui est un proche collaborateur de Patrick Drahi, et par Laurent Halimi, qui est un des directeurs d'Altice également. Donc par l'intermédiaire de ces deux collaborateurs proches, Patrick Drahi reste intéressé à l'avenir du journal, il en reste proche. Simplement, ce sera dans un cadre juridique indépendant et non pas comme une filiale.
La mauvaise nouvelle pour les salariés du quotidien, c'est qu'ils vont encore devoir déménager. À la fin de l'année, Libération quittera l'Altice Campus où ils s'étaient installés à la fin 2017.
Et justement, du côté des salariés de Libé, Cyril, comment est-ce qu'ils réagissent à cette annonce?
Eh bien, l'heure n'est pas franchement à l'enthousiasme. La Société des journalistes et du personnel de Libération a publié un communiqué hier. Si elle dit d'abord qu'elle salue la création de ce fonds de dotation, elle émet plusieurs réserves. La première, c'est que cette annonce a été faite de manière inattendue et sans concertation. Le communiqué dit également que la présentation ne permet pas de rassurer les équipes à ce stade. Les salariés de Libération demandent des garanties juridiques, financières et sociales, et aussi d'être pleinement associés à la mise en place et à la gouvernance de cette fondation. Vous l'aurez compris, cette décision surprise et unilatérale de Patrick Drahi de se séparer de Libération provoque au moment où on se parle plus de questions que de hurrah.
Le présentateur des 12 coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann, vient lui-même de réaliser un joli coup.
Le site du magazine Capital révèle que l'animateur a vendu sa société de production Géréluc à Endemol pour un peu plus de 10 millions d'euros. Selon le magazine, cela permet à Endemol de s'assurer que Jean-Luc Reichmann continuera de présenter son jeu du midi jusqu'à la fin du contrat en cours, c'est-à-dire jusqu'en juin 2021. Capital rappelle également que c'est la deuxième fois que Jean-Luc Reichmann vend sa société à Endemol. En 2008, il lui avait déjà vendu Formidouble. Ouais. Et comme le veut l'adage, jamais 203. Ça pourrait bien se reproduire à l'avenir. Jean-Luc Reichmann vient tout juste de créer une troisième société de production, Gérer-Luc Tout.
Tout comme le chiffre 2.
Absolument, in English.
Exactement, c'est Hélène Manarino qui me glisse cette traduction instantanée. Ce week-end, Laurent Delahousse retrouve ses rendez-vous d'avant-confinement.
Depuis le début de la crise, les journaux de 20h avaient pris l'habitude de durer jusqu'à 21h. À partir de demain, Laurent Delahousse va effectivement reprendre les deux émissions qui suivent son JT, 20h30 le samedi et 20h30 le dimanche, qui seront en fait plutôt 20h45 le samedi et 20h45 le dimanche, car le journal va encore continuer de s'étirer. Dimanche, Laurent Delahousse recevra le chanteur Vianney en direct et sur son plateau. Une scène qu'on a vue forcément pas souvent en ce moment à la télévision.
Et puis on reste dans la musique, Cyril, pour terminer ce journal. Un feuilleton que nous avons suivi et que vous avez surtout suivi attentivement à Culture Média, l'Eurovision et le candidat français Tom Leb.
Mais oui, Philippe, figurez-vous que c'est demain que Tom Leb devait se produire à Rotterdam pour la 65e édition de l'Eurovision. Et voilà qu'à cause de ce foutu virus, Tom a dû remiser sa guitare, le concours était annulé. C'est bon, voilà, l'Eurovision est résilient et l'Eurovision sera bien sur nos écrans demain soir. Alors pas pour la soirée habituelle, mais pour une soirée spéciale baptisée Eurovision Shine a Light. Pas question pour nous de finir ce feuilleton Eurovision sans revenir sur ces mois aussi excitants que chaotiques avec le principal intéressé. Nous avons donc joint Tom Leb hier pour lui demander comment il avait vécu d'avoir été choisi, puis d'avoir été critiqué, puis d'avoir dû changer de chanson, puis de savoir que le concours était annulé pour finir par une soirée hommage.
Dit comme ça, j'adore, c'est très drôle. Ah, c'est bien, je me suis tout de suite dit, c'était la vie d'un artiste, il y avait des hauts, des bas, des attentes, des déceptions, des revers de médailles, plein de choses, donc je le savais un petit peu, je m'y attendais, surtout quand on rentre dans un rouleau compresseur aussi, rouleau compresseur, ça veut dire, mais c'est une grosse machine qui est française, donc je savais qu'il allait avoir des problèmes avec la chanson, qu'il allait avoir tout ça, donc j'y étais préparé. Mais de là à ce qu'un virus vient interrompre tout, non. Donc comment j'ai vécu toutes ces choses, plutôt bien. Hein. Et puis ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis très content en fait. Je suis assez content de dire que la France, cette année, n'aura ni gagné ni perdu. Et du coup, j'étais content d'être celui qui ne perd pas.
Voilà, on entend Tom Leb prend tout ça avec beaucoup de recul, ouais. Mais on peut imaginer aussi quand même que ça n'a pas été très agréable d'être critiqué par le ministre de la Culture, Franck Riester. J'ai demandé à Tom Leb s'il avait imaginé que le fait d'être candidat à l'Eurovision impliquait aussi de jouer un rôle politique.
Je l'imaginais pas autant que ça, ça c'est sûr, parce que j'avais compris par France Télé qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de choses pour que ça rentre dans la ligne éditoriale de ceci, pour que le ministre de ce sujet. Mais que de là à ce que le ministre de la Culture dise du candidat de la France que ça lui fait saigner les oreilles, je me suis dit, c'est dommage de tirer sur le pilote de l'avion, quoi. J'ai trouvé ça un peu absurde, mais en même temps, j'ai compris que c'était tout à son honneur de défendre la langue française et de dire que l'anglais lui faisait saigner les oreilles. C'est son choix. Mais donc je ne lui en veux absolument pas et je respecte son avis. Mais moi, j'ai cet état d'esprit, peut-être trop anglophone parfois, de me dire, voilà, on a choisi quelqu'un pour défendre un pays, la première chose à faire, c'est de le soutenir, même si on pense que c'est le dernier des cancres.
On l'a compris, demain pas de concours, mais la production de l'Eurovision a d'ores et déjà fait savoir que les pays pourront choisir le même candidat que cette année pour le concours de 2021. Alors, est-ce que Tom Leb y pense déjà?
On en a un peu parlé avec France Télé. Moi, ça me plairait beaucoup. Maintenant, c'est dans très longtemps, ça dépend de plein de choses. Il peut se passer plein de choses en un an, et pour France Télé et pour moi. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour que et France Télé et moi puissent donner une réponse définitive.
Voilà, pas de prévision encore à ce stade. La soirée Eurovision Shine a Light, c'est donc demain soir sur France 2 à partir de 21h. On y verra Tom Leb. Et cette année, promis, on ne perd pas.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end, Culture Média qui continue avec dans un instant notre info média du jour. On va parler sport, car dès dimanche, Eurosport va diffuser à nouveau des compétitions en direct. Mais pendant le confinement, il a fallu inventer de nouvelles grilles de programmes. Question, comment alimenter une chaîne de sport quand il n'y a pas de sport? Réponse avec Laurent Prudhomme, le Big Boss. Juste après ça.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Le sport enfin se déconfine lui aussi à partir de dimanche. Les compétitions en direct reprennent sur Eurosport avec du golf dans le respect de la distanciation sociale évidemment. Et bientôt, pour avoir du cyclisme, même sans Tour de France, et du tennis, même sans tournoi de Roland-Garros. Pendant ces deux mois de confinement, la chaîne a dû composer et faire une grille de programmes de sport sans sport, avec pas mal de e-sport, le sport électronique. C'est d'ailleurs l'un des seuls secteurs économiques à qui le Covid a profité. Les prévisions de revenus pour le marché du gaming, c'est comme ça qu'on dit, marché dans le monde, ont été revues à la hausse, une augmentation de 9,3 par rapport à 2019. Dit comme ça, ça veut rien dire, je vous dis juste ce chiffre, un budget de 159,3 milliards de dollars, le e-sport. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Prudhomme, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour
merci,
à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général de Discovery France qui chapeaute Eurosport France. Donc, les compétitions reviennent sur Eurosport. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à nouveau en direct sur votre antenne dès dimanche?
Ah bah, comme vous le dites, on attend ça avec impatience depuis maintenant le pratiquement 12 mars. Donc dès dimanche, de 20h à minuit, un tournoi de golf revient. Donc ce sont les plus grands joueurs du PGA Tour qui vont jouer pour au profit d'une association caritative.
Comment s'appelle ce tournoi ?
Alors c'est le TaylorMade Driving Relief, c'est important pour nous, si vous voulez c'était depuis le début du confinement et on en parlera après, c'est vrai qu'on a dû être inventif, on a dû continuer à alimenter notre grille de programme et en même temps dès le premier jour du confinement on s'est rapproché de tous nos détenteurs de droits pour faire en sorte que le live, le direct, puisque c'est ce qui vraiment génère de l'émotion, revienne le plus rapidement et on est ravis d'être les premiers et la première chaîne de sport qui va diffuser du direct sur son antenne.
Pas tout à fait la première parce que samedi il y a de la Bundesliga qui va démarrer sur Bein Sport.
Vous avez raison.
Vous êtes la première des chaînes spécialisées. Remarquez que Bein Sport c'est spécialisé, je dis n'importe quoi. Quatre golfeurs parmi les plus en vue sur la scène internationale. Vous êtes fan de golf, vous savez me les citer? J'ai la liste devant moi, mais pour les fans, vous connaissez les noms.
Je vais essayer de ne pas me planter. Rory McIlroy, ouais. Ricky Fowler, Dustin Johnson et surtout la nouvelle star montante, le jeune Matthew Wolff, qui a 20 ans et qui est la nouvelle génération du golf américain.
C'est exactement ce que j'ai sur ma liste et vraiment, je vous dis bravo. Comment ça va se passer pour la compétition avec les nouvelles mesures de distanciation sociale? C'est-à-dire que le type qui se rapproche un peu, bim, un coup de club dans la tronche.
Alors, coup de club, j'en sais rien. En tout cas, il est évident qu'on fait vraiment confiance aux organisateurs et pas les moindres, puisque c'est le PGA Tour. C'est le PGA Tour pour les non-initiés. Ce sont les organisateurs du Tour professionnel de golf américain. Nous sommes partenaires avec eux pour les 12 prochaines années. Donc, c'est au niveau mondial. Donc, pour nous, c'est un très gros partenariat. Mmh. Et donc, on fait entièrement confiance à ces organisateurs pour respecter, bien sûr, toutes les conditions sanitaires.
Ce sera à huis clos.
Alors ce sera à huis clos. Alors on peut, c'est vrai, c'est toujours le problème de se dire c'est difficile pour les spectateurs. Est-ce qu'un événement sportif à huis clos est un véritable événement sportif? Ouais, c'est embêtant pour que les spectateurs ne puissent pas y assister. Mais on s'intéresse surtout aux téléspectateurs parce qu'ils ont besoin de revoir du sport. On n'a jamais autant parlé pendant cette crise et pendant le confinement de chaînes de sport et de la difficulté qu'elles avaient pour remplir leur chaîne. Donc ça montre l'appétence que les gens ont à regarder et l'appétence des chaînes de sport et l'intérêt qu'ont les gens à regarder du sport. Donc nous on pense surtout aux téléspectateurs et on pense aussi aux sportifs puisque tous les sportifs ont absolument envie de reprendre la compétition.
Alors l'événement est à but caritatif, il est en soutien au personnel soignant américain, la fondation des infirmières, les centres pour le contrôle de la prévention des maladies, vraiment plein de choses absolument formidables. Comment vous avez adapté votre grille pendant le confinement? Vous avez créé de nouvelles émissions en version confinée, comment ça s'est passé sur Eurosport?
Alors, en fait, on a en diffusant du sport. C'est-à-dire que le sport ne se vit pas qu'en direct. Et c'est vrai que le confinement, la fin des compétitions a été pour nous une situation très périlleuse qu'on a dû gérer. Et donc, on a dû faire preuve d'énormément de créativité, d'agilité, de flexibilité.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu
pour pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu d'abord des émissions. Et ça, c'était hyper important pour nous de mettre des programmes frais à l'antenne du lundi au dimanche. Donc, on a créé pendant le confinement 5 nouvelles émissions. Alors, on a commencé le matin. On proposait à nos abonnés un réveil un peu tonique avec l'Eurosport Fitness Club. Là, ça a été de la créativité parce qu'on s'est associé avec une célèbre chaîne d'une salle de sport à Paris, la salle de sport La Madeleine, pour que leur coach se fie film et nous propose des émissions, des cours de sport tous les jours. À 13h30, on avait le débat. C'était un débat entre des journalistes de notre rédaction, de la rédaction de Eurosport.fr et de nos chaînes linéaires, Eurosport 1, Eurosport 2. Et le soir, à 19h, on avait ce qu'on appelle le Club Eurosport, où on avait eu la possibilité d'interviewer des grands noms. Tony Parker, Renaud Lavillenie, la ministre des Sports. Ça, c'était du lundi au vendredi. Et le week-end, on a organisé un quiz entre les athlètes et nos, un quiz de sport, entre les athlètes et nos journalistes. Et on a eu la chance d'avoir une émission proposée par Christian Califano, qui est notre grand consultant rugby. Et je tiens à préciser qu'il, gracieusement, nous a proposé une émission pendant tout le confinement, où il allait un peu interviewer et rentrer dans l'intimité des athlètes. On a eu Golioris.
Gracieusement, ça veut dire. Pardonnez-moi, gracieusement, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas payé?
Bah parce que ouais, il nous a effectivement proposé ça. C'est lui spontanément, si vous voulez, qui nous a dit attendez pendant le confinement, moi je dois c'est aussi ma part de responsabilité. Donc voilà,
vous savez quoi, Laurent Prudhomme, moi aussi je vous dis attendez, on marque une pause, on va vous retrouver tout de suite pour parler d'Eurosport et ce qu'on va voir désormais en cette période de déconfinement.
Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Prudhomme, c'est le patron d'Eurosport France, je vais arriver à le dire, mais pas seulement. Et on en parle, on est avec vous, car dimanche soir, le sport reprend en direct sur Eurosport avec du golf en direct. Il y aura du tennis, mais ce sera des rediffs, mais des programmes neufs pour la semaine prochaine, faute de Roland Garros. Vous allez faire revivre d'anciens matchs du tournoi, mais ce n'est pas vous qui les choisissez. Expliquez les modalités.
Oui, alors c'est intéressant, c'est-à-dire que on a pendant tout le confinement, on a essayé.
Ça s'appelle Players Cut. Ça s'appelle Players Cut. Expliquez le principe.
Ouais, alors c'est you say we play, c'est-à-dire on propose, si vous voulez, aux abonnés. Mais pas seulement aux abonnés et également aux grands champions de déterminer leur choix de programmation.
Ah, génial.
Et donc on va diffuser, si vous voulez, tous les moments collector des grands événements, alors de tennis, mais en fait ça permet aussi de revivre les événements aux dates initialement prévues. En ce moment,
compris.
Devait avoir lieu le Giro d'Italia du 9 au 31 mai.
Le Tour d'Italie.
On revit
cycliste.
Oui, pardon, le tour de cycliste d'Italie. Et donc, on a la possibilité, enfin, on propose tous les jours les meilleures, les plus grandes étapes depuis 2013. Ouais. Et vous l'avez dit, Roland Garros va commencer le 24 mai. Et ben, du 24 mai au 7 juin, on va proposer les plus grands matchs, les plus belles rencontres choisies par nos abonnés, mais également par Rafael Nadal, Djokovic et...
Vous savez déjà ce qu'on choisit, Nadal et Djoko?
Alors pas encore, on va l'avoir la semaine prochaine. Donc on vous donnera ça la semaine prochaine, le choix de Daniel.
Alors j'ai découvert en préparant ce dossier que techniquement c'est pas simple. Comment vous faites pour diffuser tout ça? Vous aviez tous les tours de France, tous les tournois de Roland-Garros, tous les tours d'Italie dans vos archives?
Non, ça a été ça a été vraiment du bricolage, mais ça a été passionnant, ça a été une expérience dingue parce que on a fait le tour de tous nos détenteurs de droits pour leur demander accès aux archives, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait pas on avait des archives qui dataient il y a 2 ans environ. Ouais. Et donc en fait, ça a été quelque chose d'assez particulier. On a dû récupérer les archives, les envoyer par internet, par WeTransfer. Donc de temps en temps, une étape, pour télécharger une étape, on mettait pratiquement une journée entière.
C'est-à-dire
pour télécharger et récupérer le fichier.
C'est-à-dire que c'était plus long que l'étape elle-même.
Oui, mais bien sûr. Et ensuite, on a équipé nos journalistes pour qu'ils puissent commenter. Alors, soit on récupérait, si vous voulez, le commentaire d'origine, et quand le commentaire d'origine n'était pas disponible, on a équipé nos journalistes pour qu'ils puissent faire le commentaire depuis chez eux.
Alors, il y a un sport qui s'est développé pendant le confinement, c'est le e-sport, le sport électronique. L'Observatoire, je l'ai dit en préambule, de Sport Business, a récemment publié les chiffres d'affaires du gaming et de l'e-sport. Les prévisions de revenus pour ce marché dans le monde ont été revues à la hausse, 160 milliards de dollars cette année, une progression de 9,3 par rapport à 2019. Est-ce que c'est également un sport d'avenir, l'e-sport, pour la télévision ?
Alors, c'est une excellente question. Et merci. Je pense qu'il faut, il faut surtout faire la différence, à mon sens, entre ce qu'on appelle le e-sport et le sport virtuel.
Allez-y.
On a diffusé, pendant le confinement, beaucoup de sports virtuels. Pourquoi ? Un, parce que ça nous a permis...
Attendez, dites la différence. Dites la différence.
Alors, excusez-moi, vous avez raison. Non, le sport virtuel, alors, ça va être ma propre définition. Après, vous pouvez me challenger. Ouais. Mais le sport virtuel, c'est une opposition entre des sportifs professionnels et des gamers sur un simulateur autour d'un événement existant. On a diffusé.
D'accord. Attention, il me reste plus que 30 secondes. Terminez vite votre explication. Il me reste 30 secondes pour la dernière question.
Alors non, et alors que le e-sport, c'est plus aux alentours de autour d'événements de combat comme Fortnite et League of Legends et sur des plateformes Twitch qui sont bien spécifiques pour un public très jeune.
Alors je l'ai dit, demain samedi, un championnat de foot européen qui reprend, c'est la Bundesliga, le championnat allemand, des matchs à huis clos, 5 matchs en multiplex à 15h30 dont Borussia Dortmund, Schalke 04 ou Schalke 04. Vous allez regarder, vous allez jeter un œil.
Alors oui, je vais jeter un œil. On est tellement, on attend tous, si vous voulez, ce retour du direct. Et c'est pour ça que nous, on prépare aussi le retour du direct avec une rentrée et dès le mois de juillet sur Eurosport, juillet, août, septembre, jusqu'à décembre. Ouais. Si vous voulez, l'intérêt, c'est que tous les sports qui ont été annulés, en fait, sont reportés chez nous.
J'ai bien compris.
Et si vous voulez, juste un dernier mot, si vous me le permettez.
Non, je ne vous permets pas, parce qu'on a fini, on doit rendre l'antenne, mais allez-y quand même.
Alors, juste pour vous dire que ce confinement, on a eu des chiffres Médiamétrie hier qui nous dit que Eurosport a été la chaîne qui a le moins souffert parmi les chaînes de sport payantes pendant le confinement. Donc,
bravo,
toute l'agilité,
bravo à vous, l'inventivité. Merci beaucoup,
merci
Laurent
beaucoup.
Prudhomme. Vous savez que le direct, il faut s'arrêter, il y a des pauses à faire. Merci Laurent Prudhomme. Je rappelle que vous êtes le patron d'Eurosport France et rendez-vous dimanche soir pour du golf en direct. Culture Média qui continue, il y aura le rappel des titres de 10h, puis Guy Lagache de retour à la télé avec une nouvelle émission sur LCP, les grands entretiens. Il y aura le journal de la culture et puis Christophe Comte, auteur du documentaire The Kinks, trouble fête du rock anglais, un groupe qui a une influence majeure dans toute la pop anglaise, y compris les Beatles. Nos indispensables, la troisième saison de Killing Eve et puis un livre étonnant, Le monstre de la baignoire, de la mémoire, pardon. Ce sera avec Bernard Poirette qui est également lui un monstre de la mémoire juste après ça.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, nous serons avec Guy Lagache pour sa nouvelle émission sur LCP. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis, nous recevrons le journaliste Christophe Comte pour son documentaire sur les Kinks. Nos indispensables, la troisième saison de Killing Eve, la série, et un livre qui casse les codes et rien d'autre.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Guy Lagache.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous entendre, vous êtes journaliste, homme de télé, on vous a connu présentateur du magazine Capital sur M6, patron de l'info sur D8, devenu C8, vous avez été ensuite un an le numéro 2 de Radio France pour ce qui était votre première expérience radio et que vous avez décidé de quitter en juin, on en dira peut-être un mot, et là vous rebondissez sur LCP, la chaîne parlementaire, avec une collection de 6 grands entretiens, 6 fois 26 minutes, ça démarre dimanche à 23h avec Xavier Niel, vous succédez à Maïtena Birabin et après vous ce sera au tour de Patrick Cohen. Comment s'est fait le projet? C'est eux qui vous ont appelé?
Oui, Bertrand Delay et Guylaine Chenu m'ont proposé de rejoindre la chaîne pour faire une collection de grands entretiens.
Ouais. Avec quelle feuille de route ?
Bah, l'idée, il y avait une sorte de carte blanche, et ce que je leur ai proposé, ce que j'ai proposé à Guylaine, c'était de m'intéresser à des personnalités qui ont eu une très forte influence sur la société ou qui ont marqué nos vies de citoyens dans notre façon de vivre, de penser, de consommer ou de voir la société, bref, et d'essayer de comprendre comment ces personnages, hors normes le plus souvent, se sont construits dans leur parcours personnel et professionnel, pour devenir ce qu'ils incarnent aujourd'hui.
Alors, premier invité, je l'ai dit, c'est Xavier Niel. Vous pouvez citer les 5 autres ?
Il y a Maurice Lévy, patron du groupe Publicis, qui a fait de l'agence de pub Publicis le troisième groupe de communication mondial. Il y a Mercedes Serra, qui est l'une des femmes chefs d'entreprise les plus puissantes de France. Il y a Serge Papin, qui a dirigé le groupe Système U, donc le groupe de la grande distribution, et qui a envisagé d'une certaine façon la fin de l'hypermarché tel qu'on le connaît aujourd'hui avant les autres, en imaginant une consommation responsable, alors que les hypermarchés, c'est a priori aux antipodes de la consommation écolo-responsable, plutôt une consommation...
Et les deux derniers les,
et, et Jack Lang et Boris Cyrulnik, qui est celui qui a développé le concept de la résilience et qui a donc, de ce point de vue-là, une forte influence sur la vie des Français.
Voilà, et Jack Lang qui, entre autres, a créé la fête de la musique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais qui est maintenant reproduit dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde. Premier invité, donc je l'ai dit, Xavier Niel, patron, fondateur de Free, co-actionnaire du journal Le Monde. Il est assez rare dans les médias. Comment vous avez obtenu sa présence? C'était un ami à vous ou un ami de Bertrand Delay, le patron d'LCP?
Non, pas du tout. Il se trouve que j'ai contacté Xavier Niel, comme j'ai contacté un certain nombre de personnalités, et je lui ai proposé le projet. L'idée,
et il a dit oui, aussi simple que ça.
Et il a dit oui. Voilà. Il a dit oui, sans doute parce que le projet était intéressant, parce que... Finalement,
d'accord, non mais j'ai compris, quand on dit oui, c'est qu'on trouve la chose intéressante, c'était juste ma question. Alors, je vais expliquer qui il est quand même, parce qu'il a fait deux révolutions il y a 20-25 ans. C'est lui qui a inventé la boxe, qui sert à la fois à recevoir la télé, internet et le téléphone, le triple play, mais c'est lui qui l'a inventé, ça n'existait pas précédemment. Et quand il a cette idée totalement novatrice, avec ses associés, ils vont voir le numéro en français qui est Alcatel. Et voici la réponse des ingénieurs devant cette invention révolutionnaire. Mais d'abord, voici votre question, Guy Lagache.
Vous l'avez inventé comme ça ou vous avez d'abord essayé de la chercher, d'aller la trouver ailleurs?
Toujours très naïvement, on se dit, puisque au début on appelle Alcatel, et Alcatel me dit, les gens de la nouvelle économie, on est dans les années 2000, hein, vous les gens de la nouvelle économie, vous êtes super, très bien, mais ça on en reparle dans 15 ans, quoi. C'est révolutionnaire votre truc, mais on en reparle dans 15 ans.
Ah oui, les gens pensent que ça ne peut pas exister maintenant.
Non, c'est trop tôt, on va d'abord fondre de l'Internet, de la DSL chère, puis qu'on aura vendu de la DSL chère, peut-être qu'on mettra de la voix sur la DSL, et puis dans 15 ans on mettra la télé sur la
Qu'est-ce
DSL.
Qui vous fait dire que ça peut arriver maintenant, alors que les grands ingénieurs vous disent que ça va mettre des années?
Parce que ça on ne voit pas de difficultés technologiques. Bon, Alcatel et les constructeurs d'équipements télécoms nous disent non. On se dit, on va aller voir les start-up de la nouvelle économie.
Et vous partez en Californie?
On part en Californie.
Et on pense à tous les gens de chez Alcatel dont les portables n'existent plus et qui ont tous une box chez eux. Vous aviez raison, les gars, ça ne marchera jamais. On apprend plein de choses grâce à vous. Je dois dire que j'étais assez bluffé par l'émission sur Xavier Niel, notamment qu'il avait démarré avec le Minitel érotique. Mais il y a deux informations que je ne connaissais pas et qui ne sont pas faciles à faire sortir. C'est une sorte de compliment que je vous fais, Guy Lagache. On vous écoute.
Votre vie a changé le jour de vos 15 ans, puisque ce jour-là, votre père vous offre votre premier ordinateur. En quoi ça a modifié, bouleversé le reste de votre vie?
Déjà, ça bouleverse ma vie parce que je suis dans une famille modeste à Créteil, et en fait, on me donne quelque chose sur lequel je vais avoir le contrôle ou la possibilité de le contrôler et de lui faire faire quelque chose.
Pourquoi?
Parce que j'ai des parents qui sont très sympathiques, mais enfin, c'est quand même à peu près encadré. Puis comme tout enfant, j'ai une sœur plus jeune que moi et j'ai l'impression que c'est elle qui est la boss de la maison et que moi, je suis le maltraité. Et quoi que je dise, je vais être celui qui ne va pas être écouté ou on ne va pas faire ce que j'ai envie que l'on fasse. Et puis cet ordinateur-là, quand je vais lui dire de faire quelque chose, là, lui, il va le faire.
Il m'obéit.
C'est, voilà, j'ai un rapport avec une machine qui va m'obéir.
Donc un truc de puissance, en fait, de pouvoir.
Ouais, ou d'existence. Je suis encore plus grand. Et donc, on parle.
J'avais jamais entendu le coup de la petite sœur qui est la boss de la maison. Et là, c'est quasiment psychanalytique ce que vous faites là.
Oui, c'était intéressant. Mais c'est ça qui m'a intéressé dans ces grands entretiens. C'était de prendre les points de rupture du parcours de chacun de ces personnages, et notamment évidemment Xavier Niel. Il ne s'agit pas de faire un entretien biographique, mais de prendre les éléments déterminants qui ont fait ce qu'ils sont devenus. Mmh. Et donc, c'est ces petits points, c'est, vous savez, c'est comme le film, comment dirais-je, Citizen Kane, les Rosebuds.
Exactement.
Voyez, les moments de bascule.
J'ai bien compris, mais le compliment que je suis en train de vous faire, c'est une chose d'essayer de les avoir, et l'autre, et une autre, est de les obtenir.
Après, c'est votre travail de journaliste, c'est quel est le point de vue que vous avez sur les choses et comment vous poussez votre questionnement le plus loin possible pour essayer effectivement de comprendre quelque chose d'authentique qui sorte d'eux-mêmes.
Toute petite question, une telle confidence arrive après seulement 1 minute et 15 secondes d'interview. L'interview est en temps réel ou il y a du montage ?
Temps réel. Alors, temps réel.
D'accord.
Il n'y a pas de montage.
Pas
en
de
fait, il y a eu une minute de coupe parce qu'on était à 30 minutes au lieu de 29.
Ouais.
Mais elle s'est faite en temps réel.
C'était vous savez quoi, Guy Lagache ? Nous aussi, on fait une minute de coupe. On vous retrouve tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Guy Lagache avec nous, présentateur des grands entretiens, sa nouvelle émission 6 fois 26 minutes, une collection qui démarre dès ce dimanche à 23h sur LCP, la chaîne parlementaire. Le premier invité, la première interview, c'est Xavier Niel. à qui vous parlez de ses activités passées dans le Minitel Rose. À la réalisation, il y a des images de l'époque, d'écran Minitel à mourir de rire, ni à les bluffer. Je ne peux pas décrire l'image parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, mais c'est très drôle. Et c'est en même temps très bon public. Alors, on ne se refait pas. Guy Lagache, vous avez présenté pendant des années sur M6 le magazine économique Capital. Il vous arrive parfois que les atavismes ressurgissent.
Et qu'est-ce qui fait que vous allez gagner plus d'argent que les autres, concurrents? Vous avez une méthode particulière?
Et là, je me suis cru dans Capital. Comment vous faites pour que ça marche mieux chez vous que chez les autres? C'est des questions à la Capital. Alors ensuite, Xavier Niel a lancé Free, mais il est rattrapé par ses histoires de Minitel. Et alors, il est très rare qu'un grand patron passe un mois en tôle. Ce fut le cas de Xavier Niel. Et là, vous n'avez pas hésité à remuer le fer dans la plaie en lui rediffusant un ancien extrait du 20h de TF1. À l'époque, c'est Claire Chazal qui présente.
Et puis, vous êtes aussi un des rares patrons à avoir fait de la prison. Regardez.
Le PDG du groupe de télécom Iliad, qui contrôle aussi le deuxième fournisseur d'accès à Internet français, Free, a été mis en examen la nuit dernière pour proxénétisme aggravé. Xavier Niel a été écroué. Il est suspecté d'avoir investi dans plusieurs établissements à caractère pornographique qui auraient même servi de couverture à des activités de prostitution.
Il faut quand même oser passer ça au grand patron du journal Le Monde, du groupe Iliad et de Media One, futur même géant français et européen de la télé. Vous avez pensé à votre carrière future?
Non, j'y ai pas pensé du tout. Ce qui m'intéressait, c'était de faire une interview sous forme narrative. Ouais. Je pense que c'est intéressant d'utiliser l'entretien pour raconter une histoire. Et c'est ça, en fait, qui m'a intéressé. Mmh. Il se trouve qu'il s'est prêté au jeu. Il a été très transparent, et ça, je suis assez reconnaissant. Et il a éludé aucune question. Voilà. Que ce soit ça, que ce soit les services secrets auxquels il a collaboré quand il était jeune, que ce soit effectivement ce que vous avez évoqué sur l'histoire de la boxe, ou encore du forfait mobile à 2 euros. Ouais. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était de donner du sens à un parcours. Ouais. Et au fond, c'est une sorte de hacker au départ, un pirate, qui va progressivement devenir d'abord un immense patron, alors qu'il n'a pas les codes du CAC 40, pour devenir maintenant un peu quelqu'un qui incarne une partie de l'establishment.
Je reviens à vous, Guy Lagache. La manière de filmer de l'émission est très belle, c'est très bien réalisé. François Gutberg, il y a peu de moyens, très beau générique, une très belle musique de générique. Vous savez ce que c'est?
Ah bah oui, c'est moi qui l'ai choisi, Cinématique Orchestra, c'est magnifique.
On l'entend. C'est vraiment splendide. Et donc, vous avez une bonne discothèque, Guy Lagache. Je ne savais pas, je pensais vous piéger sur cette question.
Eh ben non, il se trouve que c'est la musique que j'ai proposée à Guylaine Chenu. Et on s'est dit, évidemment, ça correspond tout à fait à l'esprit et à l'humeur.
Ouais, j'ai noté le titre, vous avez un meilleur accent que moi. Vous pouvez dire le titre pour ceux qui vont le chercher?
Cinématique Orchestra.
Non, mais le titre de la chanson.
Je l'ai.
All Things to All Men. Toutes les choses pour tous les hommes. Absolument. Guy Lagache, la saison passée à la surprise générale, vous étiez arrivé à Radio France comme directeur des antennes et de la stratégie éditoriale, une sorte de numéro 2 de la PDG Sybille Veil. Au mois de juin dernier, un an plus tard, à la surprise générale, vous avez décidé de quitter la Maison Ronde. Selon un bon connaisseur du dossier cité par Le Monde, c'est un univers très technocratique. Guy n'avait pas envie de travailler dans un ministère de la radio. Je ne vais pas revenir sur les raisons de votre départ, mais plutôt, presque un an plus tard, quels enseignements avez-vous tirés de cette expérience?
C'était une expérience extrêmement enrichissante. C'est-à-dire que j'ai passé plus d'un an à la tête des antennes et de la stratégie éditoriale. Et pour moi, ça restera un marqueur très fort dans ma vie.
Je vais vous dire le sens de ma question. Quelle expérience, qu'est-ce que vous retirez d'aller dans une entreprise et d'y rester un an et de repartir? Qu'est-ce que vous êtes dit du métier que l'on fait?
Vous savez ça aussi bien que moi. Enfin, je veux dire, notre métier de journaliste au sens large, c'est un métier fait d'expérience. Il y en a qui sont plus ou moins longues, plus ou moins intenses. Et pour moi, ce qui est important, c'est de savoir ce que ça m'a appris, ce que ça m'a apporté, diriger un média global, digital, sur le linéaire, d'amener des équipes aussi incroyables que celles qui constituent les antennes de Radio France
et de les manager.
Non, mais je suis désolé. Non,
vous êtes sur Europe 1 quand même. Essayez d'être un petit peu courtois.
Pardonnez-moi.
Guy Lagache, dernière question. Alors, je vous interromps parce que sinon, d'autres projets sur LCP. Il reste 10 secondes. D'autres projets sur LCP?
Oui, il y a d'autres choses. On m'a demandé de participer à l'animation de débats par ailleurs, pour le moment, sur la période actuelle. Et puis, je développe ma société de production Worldwide Media.
Merci, formidable. Et puis je peux vous dire que les patrons de chaîne qui vont voir ces entretiens, à mon avis, ça va leur donner des idées et votre téléphone risque de sonner. Merci beaucoup Guy Lagache, les grands entretiens.
Beaucoup, Philippe.
Une collection de 6 entretiens, justement, ça démarre ce dimanche à 23h sur LCP. Merci d'avoir été avec nous Guy Lagache, Culture Média.